C'est la crise. Ah oui, je parle un peu plus fort que Paula. C'est la crise. L'écart entre les plus pauvres et les plus riches s'accentue. De plus en plus de personnes n'arrivent plus à faire face aux dépenses courantes. Et les puissants, les plus riches profitent de leur position privilégiée pour s'en mettre plein les poches. C'est la crise. Mais la grogne monte. En fait, là, je vous parle de la situation au temps de Néhémie. Néhémie qui était au retour de l'exil à Babylone et dont le défi Michée nous invite à lire un chapitre du livre. Néhémie au chapitre 5. Je vous parle de ce contexte-là, mais toute ressemblance avec une situation contemporaine serait pure coïncidence. Quoique. Je vous invite à écouter la lecture du chapitre 5 du livre de Néhémie. Elle ne va pas s'afficher. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre leurs frères judéens. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et vivre. » D'autres disaient, « Nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. » D'autres disaient, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. » Nos fils sont comme leurs fils, nous réduisons à l'esclavage nos fils et nos filles. Plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans ressources. Nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Je fus très fâché lorsque j'entendis leurs cris. Je résolus de faire des reproches aux notables et aux magistrats et je leur dis, « Quoi ? Vous prêtez à intérêt à vos frères ?» Et je convoquai à leur sujet une grande assemblée. Je leur dis, « Nous, nous avons racheté, selon nos moyens, nos frères judéens vendus aux nations. Vous, vous vendriez vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus ?» Ne trouvant rien à redire, à répondre, ils se turent. Puis je dis, « Vous n'agissez pas bien. Ne devriez-vous pas vivre dans la crainte de notre Dieu ?» pour ne pas être outragé par les nations, par nos ennemis. Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur cette dette, je vous prie. Je vous en prie, rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que le centième de l'argent du blé, du vin et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Ils répondirent, « Nous les rendrons. Nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. » Alors j'appelai les prêtres devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai la poche de mon manteau en disant « Que Dieu secoue de la même manière, hors de sa maison et du produit de son travail, tout homme qui n'aurait pas tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. » Toute l'assemblée dit « Qu'il en soit ainsi » et loua le Seigneur, et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi ordonna que je sois leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères, n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et percevaient de lui du pain et du vin, ainsi que 40 sicles d'argent. Leurs serviteurs, eux-mêmes, dominaient en maître sur le peuple. Mais moi, par crainte de Dieu, je n'ai pas agi de la sorte. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Nous n'avons acheté aucun champ, et tous mes serviteurs rassemblés étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, judéens et magistrats, sans compter ceux qui venaient de toutes les nations d'alentour. On apprêtait chaque jour pour mon compte un bœuf, 6 moutons choisis et des volailles, et tous les 10 jours on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus du gouverneur parce que le service pesait sur ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Nous sommes donc avec ce texte au temps du retour de l'exil à Babylone. C'est l'Empire perse qui a succédé à l'Empire babylonien et l'empereur a autorisé le retour des différents peuples déportés dans leur pays. Mais tout est à reconstruire. Pour les Juifs aussi, il était possible de revenir à Jérusalem. Mais la ville avait été détruite, le temple avait été détruit. Il fallait repartir presque à zéro. Ce n'était pas une période facile. Néhémie, lui, c'était un haut fonctionnaire qui avait été nommé gouverneur à Jérusalem par l'empereur perse Artaxerxès. Il dirigeait notamment les travaux de reconstruction de la muraille de la ville de Jérusalem. Mais tout ne se passait pas sans difficulté, sans heurts. Il y avait des conflits externes à cause des populations qui maintenant étaient installées dans la région et qui craignaient à leur tour d'être chassées du pays. Et il y avait des conflits à cause de cela. Et puis on voit qu'il commençait à naître une grogne à l'intérieur même du peuple, des dissensions internes à cause de la situation, du contexte, de ce qu'on pourrait vraiment appeler une crise économique et sociale. Certains, nous dit le texte, n'avaient plus assez à manger. Ils recherchaient du blé pour manger simplement, pour se nourrir, pour nourrir leur famille. Ils ont faim. On peut imaginer que peut-être ayant dû participer au travail de reconstruction des murailles, les champs, le travail aux champs avait été un peu délaissé. D'autres doivent même hypothéquer leurs biens, hypothéquer leurs champs pour acheter du blé, de quoi manger. Et d'autres enfin doivent s'endetter. Ils doivent s'endetter pour simplement pouvoir payer l'impôt impérial. On en était arrivé à un tel point que certains envisageaient même de vendre leurs enfants, leurs propres enfants, comme esclaves. Certains l'avaient même déjà fait. La crise dont j'ai parlé tout à l'heure, celle que nous vivons aujourd'hui, nous ferait presque oublier parfois les 1,4 milliard d'hommes et de femmes dans le monde qui doivent vivre avec moins d'un euro par jour, comme Paula nous l'a rappelé tout à l'heure. Parmi eux, nombreux sont ceux qui sont poussés presque jusqu'aux mêmes extrémités que ceux qui sont décrits dans ce texte de Néhémie, qui sont prêts, qui le font parfois, à vendre leurs propres enfants pour l'adoption, si ce n'est même parfois pour la prostitution. C'est le quotidien de millions d'hommes et de femmes dans notre monde. Le défi Miché, qui nous invite à ce culte aujourd'hui, veut nous faire réentendre la voix de ces pauvres et ces démunis. Une voix ce matin qui retentit à travers la voix de Néhémie dans ce texte. D'autant que si la situation propre à Néhémie, liée au contexte du retour de l'exil, est une situation particulière, les ressorts, les mécanismes qui entrent en jeu alors ont un caractère d'universalité. Les plus pauvres, de plus en plus pauvres, qui ne peuvent plus faire face, et les puissants qui profitent de la situation, qui ici laissent se dégrader une situation sociale préoccupante, qui ne s'intéresse pas à rétablir la justice pour des pauvres et des démunis qui peuvent ne pas leur apporter grand-chose, qui vont même jusqu'à contracter des prêts avec intérêt envers leurs compatriotes, alors même que Moïse, dans sa loi, interdisait cette pratique. Néhémie n'accepte pas cela. Et quand il entend parler de cette situation, il se met en colère. Il ne l'accepte pas. Qu'en est-il de nous ? L'attitude de Néhémie, elle se caractérise par trois étapes exemplaires, je crois, pour nous. Il est d'abord sensible aux cris des plus démunis, ensuite il se met en colère et il interpelle les notables pour enfin donner l'exemple par sa propre attitude. Trois étapes d'une attitude exemplaire, alors que nous, peut-être trop souvent, nous en restons à la première de ces étapes. Entendre. Néhémie se met en colère parce qu'il entend la plainte de ces pauvres, de ces démunis dans son peuple. Eux qui n'ont plus rien pour faire face même aux besoins quotidiens. Il l'entend. Il comprend la situation d'injustice dans laquelle se trouvent ces pauvres, ces petits. Il est intéressant de voir que Néhémie, qui avait pourtant une position élevée, gouverneur de la région, haut fonctionnaire de l'empereur, et qui devait avoir autour de lui bien des notables et des riches et des puissants pour le flatter, prête l'attention à la voix des petits, ceux que l'on n'entend plus. Et il entend cette souffrance. Quelle est notre capacité à entendre la voix des petits et des démunis? Le défi Miché ce matin nous rend attentifs à ce que le flot d'informations qui passe par nos écrans de télévision ou d'ordinateur, ce flot d'informations qui a tendance à noyer, c'est pas très porteur, c'est pas très vendeur de parler de la pauvreté et des petits. Et pourtant, garder intact notre capacité d'entendre la souffrance, c'est garder intacte notre capacité d'aimer et de s'indigner contre l'injustice, à l'image de Néhémie, à l'image de ce que Jésus fera lui-même au cours de son ministère, à l'image de ce Dieu qui nous est présenté dans toute la Bible comme un Dieu qui n'est pas insensible à la souffrance, un Dieu qui entend la voix des petits, des pauvres, de ceux qui crient à lui. Un Dieu qui est sensible à la voix de ceux qui souffrent, qui porte attention aux humbles. Si nous lui appartenons, alors nous devons être capables aussi d'entendre ses voix de ceux qui souffrent, peut-être à côté de nous, peut-être au loin. Entendons-nous cette voix comme le Seigneur, lui, l'entend. Mais après avoir entendu, Néhémie va interpeller. La première résolution qu'il prend quand il comprend la situation, c'est d'interpeller les notables, les magistrats, ceux qui ont un pouvoir, une influence dans le pays. Et il leur fait des reproches. Ce que vous faites n'est pas bien, n'est pas juste. Alors c'est vrai que Néhémie, lui, il était gouverneur. C'était un personnage influent et nécessairement sa voix allait porter, allait compter. Mais il le fait et il demande deux choses, d'annuler la dette, d'annuler ces dettes qu'ils avaient fait contracter et de remettre le trop perçu des champs, de l'argent, du blé. Une demande finalement qui est tout à fait dans l'esprit de la loi du jubilé que l'on trouve dans les lois de Moïse, qui proposait tous les 7 ans de remettre les compteurs à zéro. Le but étant de permettre à ceux qui étaient en train de sombrer dans la pauvreté de se remettre à flot. Un souci de solidarité des plus petits, des plus pauvres, qui était inclus dans la loi de Moïse. Et ce que Néhémie finalement demande ici est tout à fait dans cet esprit. On pourrait dire que l'extrême pauvreté est bibliquement intolérable. inacceptable. Non pas dans une perspective communiste utopique du partage égalitaire, mais au nom de l'amour du prochain. Laisser sombrer quelqu'un dans l'extrême pauvreté, c'est une non-assistance à personne en danger. Ne pas entendre la voix des plus petits et des plus pauvres, c'est une non-assistance à personne en danger. Alors, c'est vrai, on peut se dire, et ce que Paula disait est vrai, on peut se sentir tout petit face à tout cela. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Comment pouvons-nous avoir une force d'interpellation? On n'est pas Néhémie, on n'est pas gouverneur du pays, on n'a pas une place importante dans notre région, notre ville ou notre pays, et encore moins dans le monde. Interpeller, c'est pas râler, ça on sait faire. Il n'y a pas de problème. Râler contre les puissants, fustiger les politiques, décrier les riches, ça on sait faire, mais ça ne va pas très loin. Un des aspects du défi Miché, c'est d'encourager les chrétiens à interpeller les responsables politiques qui, eux, se sont engagés dans les objectifs du millénaire pour lutter contre la pauvreté. Vous pouvez retrouver tout cela sur le site internet du défi Miché. Il y a beaucoup d'informations, d'indications sur tout cela. Alors, il y avait des actions qui sont proposées. C'est vrai que là, on a peut-être un peu raté le coche, nous, cette année. On ne s'y est pas pris assez tôt, peut-être. C'est peut-être pas trop tard. Peut-être des choses que l'on peut faire. Et ce qui est important, en tout cas, c'est de se dire que si notre voix à nous ne porte pas, il faut qu'elle s'unisse à d'autres pour qu'elle puisse vraiment porter. Et si unie à d'autres, elle est amplifiée encore par la prière, notre voix et celle des autres, alors elle peut porter et avoir un pouvoir d'interpellation. Et la prière, les prières que nous avons eues tout à l'heure sont comme autant de porte-voix pour ceux qui parlent, pour ceux qui ont une voix, pour ceux qui ont parfois une influence. Des porte-voix, des amplificateurs qui font de nous aussi des participants de cette force d'interpellation à l'image de Néhémie. Et puis, ensuite, Néhémie va montrer l'exemple. À partir du verset 14 dans Néhémie 5, il fait en quelque sorte le bilan de son attitude, de son action en tant que gouverneur. Voilà comment j'ai agi pendant ces 12 ans. Il a renoncé à certains privilèges auxquels il aurait eu droit en tant que fonctionnaire, haut fonctionnaire de l'empereur. Il y a renoncé parce que, alors que ses prédécesseurs en profitaient pleinement, cela faisait peser un poids insurmontable sur les populations locales, sur le peuple qui était là. Et c'est à cause de cela qu'il a renoncé à ses privilèges. Néhémie n'était pas un simple donneur de leçons, en train de dire aux notables « c'est pas bien ce que vous faites », mais en restant aux paroles, à des paroles accusatrices ou moralisatrices. Il a montré l'exemple par son attitude. Et ça, c'est aussi une attitude exemplaire pour nous. Parce que c'est facile hein, de prendre la position du donneur de leçons en disant aux autres « c'est pas bien ». Mais comment est-ce que dans ma vie de tous les jours, je montre l'exemple? Pour éviter l'écueil du donneur de leçons, la seule voie est celle d'une attitude exemplaire. Nous pouvons commencer chacun à notre échelle, à notre niveau. Par exemple, en adoptant un style de vie simple. Là aussi, si vous allez sur le site du Défi Miché, vous verrez plein de bons conseils concrets, tout simples, pour mener une vie simple, avec une gestion responsable de nos biens, en intégrant dans nos budgets, je ne parle pas simplement des budgets d'église, mais de nos budgets personnels, familiaux, en y intégrant une dimension de don, de partage, comme étant une part entière de la gestion de nos biens. Mener une vie simple, marquée aussi par le don et le partage, en saisissant les occasions, il y a des occasions qui se présentent dans notre quotidien, des occasions pour venir en aide, pour exercer l'hospitalité, pour être accueillant, pour soutenir, pour accompagner, pour répondre à cette voix, cet appel que l'on peut entendre. Un peu comme nous y invite la parabole du bon samaritain. C'est une parabole qu'il nous faut entendre tout à nouveau. Et n'oublions pas que celui qui a montré l'exemple parfait d'une vie simple, marquée par l'humilité, en renonçant à ses droits par amour pour nous, c'est bien Jésus, notre Seigneur. Il a renoncé à sa gloire. Il l'a renoncé pour devenir comme nous. Il s'est fait serviteur, humble, petit, jusqu'à endurer la mort sur la croix. Y a-t-il exemple plus frappant que celui-là? Alors en conclusion, oui, c'est la crise. Sans doute que nous en sommes tous plus ou moins affectés. Mais c'est une raison pour oublier ceux qui, même sans la crise, vivent dans une extrême pauvreté. Nos épreuves, nos difficultés ne doivent pas nous rendre insensibles, sourds, aux cris de ceux qui souffrent, auprès comme au loin. Peut-être même que ces épreuves, quelque part, devraient aiguiser notre capacité d'écoute. À l'exemple de Néhémie et à l'exemple suprême de Jésus, demandons au Seigneur de bonnes oreilles. De bonnes oreilles pour entendre les cris de ceux qui souffrent, auprès comme au loin. Demandons au Seigneur une langue bien pendue pour avoir le courage de dire ce qui ne va pas et d'exercer, y compris à travers la prière, mais aussi par nos paroles, une force d'interpellation. Et demandons au Seigneur des pieds et des mains fermes et solides pour montrer l'exemple au quotidien dans notre attitude. Tout cela, toutefois, ne sera possible que si le Seigneur nous donne un cœur gros comme ça, plein de son amour pour tous les hommes. Amen.